Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. L'Europe des sans-abri. 700 000 personnes recourent chaque soir sur le continent à un hébergement d'urgence, une hausse de 70% en 10 ans. Or, cette solution très précaire a un coût, 20 000 euros par an et par personne, alors qu'un logement social reviendrait à 9 000 euros par an. En Europe, seul un pays a renversé la tendance en estimant que dormir sous un toit est un droit fondamental. C'est la politique du logement d'abord, mis en place en Finlande, une politique simple, donner un logement pérenne tout d'abord et très vite pour aider les exclus et non l'inverse. Résultat, le nombre de SDF a baissé de 35% depuis 2008. Reportage à Helsinki, signé Léa-Lisa Westerhoff.
Sébastien, 41 ans, nous fait visiter son appartement. Voilà, 35 mètres carrés et une baie vitrée qui donne sur un joli lac et des arbres aux couleurs d'automne.
On a un bateau. Donc on peut se prélasser sur le lac, pêcher ou bien juste ramer et profiter du beau temps pendant la période de l'été.
À l'intérieur, la chambre et le salon ont été meublés avec soin. Un canapé en cuir marron, une télé et une petite table. Sébastien est l'un des 35 habitants de cette résidence. Lui n'est pas passé par la rue mais a bien failli y atterrir. Après un divorce avec sa femme finlandaise, une longue dépression et la perte de son emploi. Finalement, les services sociaux lui proposent ce logement. 485 euros par mois payés par sa pré-retraite d'ex-technicien dans le bâtiment et la possibilité de ne pas se sentir isolé.
On se connaît tous ici, on boit le café ensemble à 6 heures. Tous les jours, on a la possibilité de jouer aux cartes, d'aller au sauna tous ensemble. Oui, donc c'est un peu plus convivial que vivre dans une location privée. Et on a aussi la possibilité d'avoir l'aide si on a, par exemple, des démarches à faire auprès de la Sécurité sociale ou d'autres démarches à faire. On peut avoir de l'aide de leur part.
Un couloir plus loin, au rez-de-chaussée, quatre personnes sont installées autour d'une grande table. Une autre dans un canapé, un sixième se prépare un café. L'endroit fait penser à une colocation avec un grand salon qui sert de lieu de vie partagé. Miguel, ses cheveux longs retenus par un élastique, surfe sur Internet. Installé devant l'ordinateur, ses pieds bien au chaud, dans de grosses chaussettes en laine et des crocs verts flamboyants, il se souvient à quel point il a été difficile de ne plus avoir peur de tout perdre.
Ça m'a pris 2 ans et demi pour appeler mon appart ma maison, car j'ai passé tellement de temps dans la rue sans rien à moi. Mais aujourd'hui, après un long combat avec moi-même, des choses toutes simples, comme faire la vaisselle dans mon appart chez moi, me procurent un sentiment formidable.
Des longs mois qu'il a passé à vivre dehors, Miguel a gardé l'habitude de ne jamais quitter son manteau. Musicien de rue originaire du Chili, Miguel a atterri en Finlande il y a 26 ans. Il tombe amoureux d'une Finlandaise, a 3 enfants, mais en 2012, il divorce. C'est à partir de là que la machine s'enraye.
Le plus compliqué, ça a été quand j'ai décidé d'arrêter de boire de l'alcool. C'était il y a 6 ans. Comme je voulais arrêter, j'ai dû couper avec 90% de mes amis, car tous étaient alcooliques comme moi. Et puisque j'arrêtais de boire, je perdais la possibilité d'être logé chez tout un tas d'amis qui, eux, buvaient. Or, je ne voulais pas être dans cet environnement. Donc, j'ai passé 1 an et demi sans logement. En tant que musicien de la rue, je pensais au départ être habitué. Mais ce qui était comme une aventure étant jeune, en ayant plus de 50 ans aujourd'hui, c'est rapidement devenu de la souffrance.
C'est à cette souffrance que le programme finlandais Un logement d'abord veut mettre fin. Jerko Jurisalo est le directeur de la résidence où vit Miguel.
Tous ont été dans la rue 1 an ou plus. Ce sont les services sociaux de la ville qui les repèrent et qui réfléchissent à l'endroit le plus adapté pour eux pour vivre.
11 employés, dont la majorité a un diplôme d'infirmier, sont là pour les résidents, s'ils le demandent. Dans le salon ce matin-là, 8 locataires glissent des bracelets réfléchissants dans une petite pochette. Une autre fabrique des figurines de Noël. 4 heures d'un petit boulot, grâce auquel ils gagnent 8 euros, réapprennent à travailler et surtout ne retournent pas à la rue. La Finlande a lancé cette politique de logement sans condition en 2008 après un constat d'échec. Juha Kakinen, président de la Fondation Y, l'un des plus gros bailleurs sociaux du pays.
Demander à une personne qui vit dans la rue ou dans des logements temporaires de résoudre ses problèmes de santé ou psychiques pour ensuite décrocher un appartement, ça ne marche pas dans la pratique. Donc on a décidé de changer le système à l'échelle nationale et ça a plutôt bien marché.
À l'époque, 170 millions d'euros sont débloqués pour financer l'acquisition d'appartements et la construction de résidences au loyer très modéré. Résultat, en 10 ans, le nombre de SDF a baissé de presque 40%. Pour Yuwa Kakinen, outre l'amélioration du bien-être, le gain est aussi financier.
Nous avons des études scientifiques qui montrent qu'un ex-SDF qui a un logement, même avec une aide sur place, eh bien les économies par personne et par an s'élèvent à 15 000 euros. Et ces économies viennent de l'usage réduit de systèmes d'urgence comme la police, les ambulances, la justice, tous ces services d'urgence auxquels on a recours pour des SDF disparaissent une fois qu'ils sont logés.
Depuis la création de la résidence Wainola en 2014, 37 personnes sont parties vivre dans un appartement seul, 10 ont retrouvé du travail. Dans la commune d'Espoo, 900 personnes sont encore sans domicile fixe. La plupart attendent la construction de nouveaux logements pour sortir de la rue.
Et la Finlande s'est donné 8 ans pour ne plus avoir de sans-abri dans le pays. En France, on dort de plus en plus dans la rue et on fait de plus en plus appel à l'État lorsqu'il fait froid. Plus 50% en 3 ans. Dans le nord du pays, c'est une start-up qui essaie de faire bouger les choses. Car à côté de cette crise de l'hébergement, il y a 3 millions de logements vacants dans l'Hexagone. Rassurer et rémunérer à la marge les propriétaires de ces appartements vides pour qu'ils les prêtent gratuitement, c'est le défi de StirUp, une entreprise créée par Delphine Barthes. Lise Verbeck est allée la rencontrer.
Bonjour. Le bureau de Delphine Barthes se trouve chez Eura Technologies, un incubateur de start-up.
Le premier étage est quasi que dédié au programme d'accompagnement des start-up.
C'est ici qu'elle travaille d'arrache-pied pour faire grandir son entreprise StirUp, une plateforme qui permet aux sans-abri d'accéder à un logement grâce à un prêt gratuit de logement vacant. L'idée lui est venue il y a 2 ans.
J'ai été bénévole, c'est la première fois que je faisais de l'humanitaire, sur un camp de migrants à l'île Centre, à l'île Saint-Sauveur, pour une distribution alimentaire. Et j'ai fait la rencontre d'une famille sur ce camp de migrants. La maman était enceinte et attendait un heureux événement pour Noël. Moi, je suis maman et en fait, à un moment donné, c'était juste insupportable d'imaginer que ce bébé naisse dans la rue. Et c'est comme ça que l'histoire a commencé. J'ai décidé que ce bébé naîtrait pas dans la rue. Et j'ai remué ciel et terre pour les mettre à l'abri et leur trouver un logement. Et la meilleure des propositions, c'était un logement à prêter parce qu'il était vacant depuis 3 ans.
Mais pour que le logement soit prêté, il a fallu mettre en place un cadre juridique.
Pour rassurer les propriétaires, pour qu'ils soient protégés et que les occupants soient protégés aussi. Et c'est là que j'ai mis en place un nouvel outil juridique qui est un contrat de prêt de logement gratuit. Et donc la famille a été mise à l'abri. Et suite à ça, je me suis dit, tiens, je tiens un outil.
Elle trouve alors un modèle économique et lance StirUp, qui signifie étrier en anglais, pour remettre le pied à l'étrier aux personnes dans la précarité.
Le fait que les propriétaires prêtent gratuitement les logements, c'est un don en nature à une association d'intérêt général. Et qui dit don à une association d'intérêt général dit possibilité de défiscaliser. Donc les propriétaires prêtent parce qu'ils ont un intérêt financier, parce qu'ils défiscalisent. Donc ils gagnent de l'argent. Et quand les propriétaires gagnent de l'argent, StirUp gagne de l'argent, puisque moi, je vais venir leur facturer tous les mois une prestation, un forfait, pour avoir accès à cette solution de défiscalisation.
Ce système permet aussi aux propriétaires de ne pas voir leur logement vacant se dégrader, car il n'est pas entretenu, ou encore être squatté, comme c'est souvent le cas. Delphine Barthes travaille essentiellement avec des marchands de biens qui possèdent des dizaines et des dizaines de logements, mais aussi avec un groupe immobilier qui prête des logements dans des résidences étudiantes ou des résidences pour seniors.
Ils savent que sur l'année, ils vont avoir de la vacance. Et du coup, statistiquement, ils anticipent et ils me prêtent par anticipation les logements. Parce que des logements vacants, eux, ça leur coûte cher. Il y a quand même les charges. Ils essayent de le relouer en baissant le loyer, mais rien que de mobiliser le personnel pour prospecter pour le louer, ça leur coûte plus cher. Que là, ils savent d'avance combien ils vont pouvoir récupérer, économiser par rapport à la défiscalisation.
Vous pouvez me dire où on va ?
Oui, bien sûr. On va à Roubaix, on va rencontrer des occupants d'un logement tremplin.
Les logements temporaires sont prêtés 6 mois maximum. Abdoul est fier de nous recevoir dans son grand appartement, son chez-lui, où il a posé ses valises il y a quelques semaines.
Vous pouvez me faire visiter ?
Bah oui.
Oui. tester la cuisine.
Sa procédure de demande d'asile est en cours et il travaille comme agent d'entretien. Il s'est retrouvé à la rue quand il est devenu majeur.
Au début, j'étais placé dans un foyer, mais vu que j'ai eu mes 18 ans, j'ai pas mes papiers, j'ai galéré d'avoir le logement.
Quelle est la différence de vivre ici dans un appartement plutôt qu'en foyer ?
Je vois beaucoup de différences. Ici, je suis tranquille, je rentre quand je veux, je suis déjà majeur. Quand même, si je suis ici, je suis bien. Il n'y a personne qui me contrôle, sauf deux fois, il vient une fois par mois, selon ce qu'il m'a expliqué, pour voir comme c'est une maison prêtée.
C'est votre chambre ?
Oui, c'est ma chambre. Ouais. Là, c'est mon coloc.
Car Abdoul est encadré par l'association La Beige et son dispositif La Clé de l'Avenir, avec qui travaille directement Delphine Barthes.
Vas-y, installez-vous.
Et c'est cela aussi qui convainc les propriétaires de prêter leurs biens, car une association est là pour tout gérer. Alors dès qu'elle a un logement disponible, Delphine Barthes prévient La Beige, qui sélectionne un jeune. Avoir un logement temporaire est essentiel pour ensuite accéder à un logement social, selon Ilham Kasmi, qui pilote La Clé de l'Avenir.
La plupart d'entre eux n'ont jamais connu de logement. Ils ont connu soit les foyers ou la rue. Du coup, là, ça leur permet d'avoir leur propre logement, de se mettre en situation concernant la vie quotidienne, tout ce qui est les tâches quotidiennes, savoir si ça faire ou pas, si nous, comment on peut intervenir. Et aussi, savoir quels sont les droits et les devoirs d'un locataire. Donc ça, c'est très, très important. Et du coup, les logements SIREP, ça permet déjà de mettre en place un certain nombre de choses, type l'assurance, les charges collectives, les prélèvements, les ouvertures de compteurs. Et du coup, après, nous, on met en place d'ailleurs une participation.
Depuis son existence, il y a quelques mois, StyreUp a permis de prêter 8 logements à des jeunes précaires, mais aussi à une femme qui a dû quitter son foyer car battue par son mari. Ces 8 logements sont une bonne base pour Delphine Barthes, car cela lui permet de convaincre de nouveaux propriétaires de la solidité de son projet. Elle est déjà en pourparlers avec des marchands de biens d'autres régions.
Et au Royaume-Uni, le choix de l'austérité, l'augmentation du coût de la vie ont eu un impact immédiat sur le nombre de sans-abri, plus 165% entre 2010 et 2018, un bilan peu encourageant à Londres, Marie Billon.
Dans le centre-ville piéton de la capitale galloise Cardiff, ils ont installé des tentes. À Windsor, aux abords du château de la Reine, ils ont déplié leurs sacs de couchage dans les abribus. Sous le boulevard central de Piccadilly à Londres, ils se protègent du vent en s'installant devant les entrées d'immeubles en construction. Il est désormais difficile de se promener dans une ville britannique sans voir des sans-abri. Et puis il y a ceux qu'on ne voit pas, un nombre qui reste inconnu, faisant du couchsurfing comme on dit. Ils n'ont pas de domicile mais parviennent pendant un temps à dormir chez des amis. Si de plus en plus de Britanniques n'ont plus les moyens d'avoir un chez eux, c'est à cause de plusieurs facteurs. Les loyers d'abord ont énormément augmenté ces dernières années, en particulier dans la capitale britannique, et le nombre de logements à loyer modéré reste insuffisant. Le Guardian explique même que certaines personnes sont considérées comme trop pauvres pour obtenir un logement aidé, et comme les demandes ne manquent pas, les propriétaires et les autorités locales sélectionnent les candidats. Le coût de la vie, bien sûr, aussi a augmenté. Mais ce qui a vraiment constitué un tournant, selon les associations, ce sont les politiques d'austérité. Les financements accordés aux autorités locales pour notamment aider les personnes ayant du mal à se loger, a été drastiquement diminué, voire supprimé, selon certains des conseillers municipaux. L'an dernier, le gouvernement a donc annoncé un plan d'action. L'objectif, qu'il n'y ait plus personne dormant dans les rues d'ici à 2027. L'équivalent de 35 millions d'euros a été débloqué pour augmenter le nombre de places d'hébergement. 1750 nouveaux lits et 500 personnels aidants embauchés. 15 nouveaux centres d'hébergement doivent aussi recevoir des fonds en Angleterre. Dans chacun, les sans-domicile doivent être accueillis par un travailleur social qui devra identifier les causes de l'extrême pauvreté de l'individu et trouver des solutions. Les autorités locales accueillent ces initiatives et elles ont en effet enregistré une baisse du nombre de sans-abri depuis environ un an. Mais les associations estiment que tant que les politiques d'austérité obligent les conseils municipaux à fermer les cordons de la bourse, le problème ne pourra pas être réglé dans le long terme.
Les Tchèques commémoraient le week-end dernier de façon fort peu consensuelle les 30 ans de la révolution de velours qui a causé la chute du communisme. 250 000 personnes étaient descendues dans la rue pour demander la démission du Premier ministre Andrei Babiš, ancien membre du Parti communiste, aujourd'hui milliardaire accusé de corruption. La révolution de velours n'apparaît plus si douce, mais l'a-t-elle jamais été ? C'est tout l'objet de notre chronique En un mot à Prague. Alexis Rosenzweig nous explique d'où vient ce surnom, velours, donné à la Révolution, et ça commence en musique.
Sametova de velours, c'était une chanson oubliée du groupe Žluti Pes, un des nombreux groupes interdits par le régime communiste à Prague dans les années 80. Après la révolution de velours, la Sametova revoluce en tchèque, la chanson est devenue un tube, toujours réclamé au groupe par le public de ses concerts. Pourquoi le velours pour définir la révolution tchécoslovaque? Eh bien tout simplement parce que la matière est douce. D'ailleurs, du côté slovaque, on a toujours préféré l'appellation « révolution douce ». N'empêche que le velours est devenu la marque de fabrique tchécoslovaque d'une révolution pacifique, comme celle réussie à Prague en 89, où quelques jours après la chute du mur de Berlin, le pouvoir totalitaire en place s'est écroulé comme un château de cartes, mais en douceur. Pourtant, l'anniversaire de cette révolution est célébré le 17 novembre, une date qui marque la répression brutale d'une manifestation étudiante par la police. Magdalena Platsova était dans le cortège et une chose est sûre, les matraques des forces de l'ordre n'étaient pas du tout en velours.
Oui, j'avais peur pour ma vie, quoi, parce que dans ce moment-là, ça avait vraiment l'air très très grave, c'était très violent, on ne pouvait pas s'échapper. Il y avait ces grands hommes armés qui nous sont battus, quoi. Alors j'avais peur.
Une répression violente mais qui ne durera pas. La rumeur d'un étudiant mort va mobiliser la population et pétrifier les autorités. Pour le reste, l'absence de débordement est probablement due au caractère placide des Tchèques. Explication du politologue franco-tchèque Michel Perotino.
Le velours, en pratique, je ne suis pas très sûr que ce soit tout à fait approprié. Par contre, ça a évidemment aussi eu un impact sur la transition elle-même, puisqu'on part du principe que les Tchèques en particulier sont beaucoup plus pacifiques et donc que la transition va se faire de manière beaucoup plus pacifique que dans d'autres cas. Après, effectivement, quand on regarde dans le détail, notamment le 17 novembre, la manifestation a été tabassée, effectivement, ça, il n'y a pas de doute là-dessus.
Juste après la chute du mur de Berlin, la Tchécoslovaquie était le premier pays du bloc communiste à se révolter contre l'occupation soviétique. Et c'est la fameuse révolution de velours qui a fait tomber le régime. Une révolution menée par les intellectuels, parmi lesquels Václav Havel, qui est devenu le premier président élu démocratiquement dans un pays.
En tout cas, au niveau de la communication, pas de doute possible, l'expression « révolution de velours » est séduisante. En plus, la marque n'est pas déposée, donc elle peut être utilisée par d'autres. Les Arméniens, entre autres, se sont appropriés la formule « révolution de velours » pour les changements intervenus l'année dernière à Erevan. À Prague, il y a eu cette semaine de nombreux rassemblements et événements organisés pour le 30e anniversaire de la révolution de velours originale. Prague célèbre le velours est le titre d'une exposition photo. Une révolution qu'on disait de velours est le titre d'une autre expo au Musée national tchèque. Quant aux manifestants qui protestaient ce week-end contre le gouvernement tchèque, beaucoup d'entre eux ont fait référence aux valeurs démocratiques de 89 qu'ils estiment bafouées par l'actuel Premier ministre. Un des participants avait une pancarte sur laquelle on pouvait lire « On ne laissera pas salir notre velours ». De son côté, le parti Pirate a mis en ligne une vidéo intitulée « La Tchéquie sans le velours », une fiction dans laquelle le pays est représenté tel qu'il serait sans les acquis de la révolution de 89, avec l'accent mis sur les libertés individuelles bafouées et sur l'emprise des technologies chinoises, un sujet qui fait actuellement débat à Prague aussi, où le maire est issu des rangs de ce parti pirate.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr à la rubrique podcast Accent d'Europe ainsi que sur les réseaux sociaux. On se retrouve dès demain.
Et qu'est-ce que tu regardes ?
C'est où ?